consacrée en fait à un groupe constitué majoritairement de chorégraphes mais aussi d'artistes qui s'est baptisé à partir de 62 jusqu'en 64, le Judson Dance Theatre, et qui se tenait donc dans une église protestante en fait qui accueillait des expérimentations artistiques sur Washington Square à New York, qui abritait déjà des poètes dans les années 50 et qui à partir de 62 donc va accueillir cette communauté dont on peut aussi rappeler, Simone Forti insistait tout à l'heure sur le rôle de Cage et la notion de concept en fait dans la manière de réinventer les formes artistiques. Et en effet, ces artistes qui fondent le Judson Dance Theatre sont en fait issus de l'atelier de Robert Dunn. Le nom de Robert Dunn est un nom intéressant à retenir, hein, c'est un pédagogue, il était l'élève de John Cage. Et John Cage l'a chargé, à partir de 1960, de faire des cours de composition dans le cadre du studio de Merce Cunningham. Donc ces danseurs qui, à New York, évidemment, sont intéressés par l'avant-garde la plus radicale, qui est à ce moment-là celle de Merce Cunningham, vont découvrir petit à petit cette classe de composition qui, en fait, va surtout les inviter à concevoir leur danse à partir de textes. Hein, donc toute la notion de notation chorégraphique va être bouleversée avec l'idée qu'on ne note plus une danse après coup, après l'avoir créée, hein, pour en constituer la mémoire, mais qu'on va au contraire faire intervenir l'écriture ou le dessin, des diagrammes, du texte, des notations de différentes manières, en amont de la danse. Hein, donc il s'agit de planifier comme ça un concept qu'on va ensuite mettre en œuvre. Ces chorégraphes, en fait, ce sont essentiellement Yvonne Rainer, à laquelle aussi on rend hommage dans cette salle, hein, puisque son travail est fondamental. Elle fait référence pour Richard Serra, elle a travaillé avec Carl André, elle est vraiment une figure très très importante de cette période. Je vais en dire deux mots tout à l'heure. Mais aussi Lucinda Childs, qui va commencer à réinventer aussi son vocabulaire dans ce cadre-ci. Trisha Brown, de la même manière, va partager ses expérimentations, ou encore Steve Paxton. La particularité de ce projet du Judson Dance Theatre est très intéressante, c'est vraiment un projet de groupe. Apparaît vraiment, contrairement à ce qui se passe dans les trajectoires des sculpteurs, des grands sculpteurs dont on connaît les noms, hein, Richard Serra, Donald Judd, etc., ici on a affaire au contraire à une utopie réelle, hein, de communauté, avec l'idée de partager un processus de réflexion, de recherche en groupe. Et à terme, de dépasser, je dirais, l'auteur individuel pour aller vers une création collective. Et la preuve de cela, c'est à la fin des années 60, en tournant des années 70, Yvonne Rainer va fonder ce qu'elle appelait le Grand Union, c'est-à-dire, en anglais, ça veut dire le syndicat, le grand syndicat, pour essayer justement de se mettre en retrait en tant qu'auteur et de faire participer en fait tous les performeurs à la conception de l'œuvre. Donc il y a vraiment quelque chose, à nouveau on est dans un vrai désir d'émancipation et de reformuler complètement le projet social dans ses formes d'art. Alors les repères de ce groupe, hein, vous voyez que participe également dans ce groupe Robert Rauschenberg, qui était très très proche des danseurs à cette période-là, ainsi que Robert Morris, qu'on voit sur ces photos, dans la photo juste d'avant, dans ce cadre-là, hein, Robert Rauschenberg comme Robert Morris vont eux-mêmes passer à l'acte, faire des performances et, tester leur propre habileté corporelle à réfléchir autrement par rapport à l'espace et au temps. Donc ça dit bien à quel point ces formes de danse nouvelles ne sont pas du tout basées sur la virtuosité technique, mais plutôt sur l'idée d'une expérience complètement ouverte des capacités corporelles. Alors, les œuvres que vous voyez réunies ici, hein, ça serait compliqué de toutes les détailler. Ici, il y a un diaporama qui donne une idée du foisonnement, hein, de ces expériences menées au Judson Dance Theatre, qui était composé en fait de deux espaces. Hein. Un premier espace qui était à l'étage, du rez-de-chaussée et qui était aménagé un peu comme une scène frontale, et au sous-sol, un gymnase qui permettait d'expérimenter avec un espace non frontal. Hein, donc, on voit aussi que le rapport à l'espace, disons, il permettait toutes sortes d'idées, hein, et de nouvelles orientations. Les deux œuvres que vous voyez ici, hein, ce sont deux œuvres majeures d'Yvonne Rainer, Hand Movie, qu'elle réalise en 66, au moment où elle est en fait hospitalisée d'urgence pour une grave opération qu'elle doit subir. Son corps est immobilisé et un ami vient la voir avec une caméra Super 8 et elle a l'idée de concevoir une danse, là encore de façon minimale, à partir des outils dont elle dispose, hein, qui sont effectivement simplement une toute petite partie de son corps qui peut encore bouger dans cette situation de convalescence. Donc Hands Movie est un film qui montre simplement les mouvements de sa main de façon frontale et qui a directement influencé Richard Serra, hein, dans les films dont on a vu tout à l'heure un exemple, hein, toute cette série Hand Process Movie qui date de 68 en fait a été réalisée après avoir vu le film d'Ivan Reiner, ce film aussi. Autre œuvre majeure d'Ivan Reiner, c'est cette vidéo qui montre en fait l'exécution. Alors, qu'elle considère plus comme, dans ce cas-ci, comme quelque chose qui est vraiment fait pour la documentation. Ce n'est pas une performance, comment dire, publique qui a été filmée. Et c'est pourquoi on l'a mise en plus petit. L'œuvre s'intitule Trio A. Alors, vous voyez que c'est un solo qui s'appelle Trio. La raison, elle est très simple, c'est qu'en fait, ce solo était interprété par trois danseurs de façon désynchronisée. Donc, il y avait l'idée aussi de quitter la logique d'unisson pour aller vers une composition comme ça, complètement éclatée du temps, avec des choses qui ne coïncident pas. La particularité très innovante de ce solo, en fait, c'est que Ivan Reiner va chercher en fait, à supprimer toute notion, non seulement de virtuosité, ça on en a déjà parlé, mais aussi toute notion de changement d'intensité, toute notion de climax. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans cette danse de développement, de répétition, tous ces éléments qui permettent en fait, en musique comme en danse, de repérer disons, où est-ce qu'on en est dans la danse, d'avoir des repères de mémoire par rapport à la composition. Elle va simplement aligner comme ça un mouvement après l'autre, donc selon un processus qui fait penser justement au travail de Carl André ou d'autres, qui posent comme ça une dalle après l'autre ou une brique après l'autre, sans variation d'intensité. De la même manière, elle va comme ça juxtaposer ses mouvements, sans rupture, de façon complètement continue. Et elle dit, dans un des textes qui est en vitrine, ce qui rend un mouvement différent d'un autre, c'est l'énergie qu'on met dedans. C'est la forme est moins importante que le degré d'énergie qu'on peut investir et la manière dont on va étaler cette énergie ou au contraire la faire poser sur des accents. Donc là, l'idée, c'est d'aller vers l'homogénéité la plus totale. Donc on a quelque chose finalement d'assez ludique qui en ressort. Il y a quelque chose de très, très enfantin dans cette danse, hein, puisqu'elle assemble comme ça des mouvements issus à la fois de la danse, disons, contemporaine, mais aussi des mouvements ordinaires de tous les jours qu'elle va juxtaposer de façon égale. Enfin, ce trio a eu aussi une très grande importance en 70, au moment où, de l'invasion du Cambodge, hein, c'est-à-dire que la guerre du Vietnam aux États-Unis a pris une tournure encore plus dramatique, et un grand nombre d'artistes en fait, ont réagi par toutes sortes d'occupations de musées, hein, de tentatives d'interrompre, je dirais, les activités du monde de l'art. Robert Morris va finir par interrompre sa rétrospective au Whitney, etc. Donc on a un grand nombre de prises de position. Et au Judson Memorial Church, donc dans cette congrégation protestante où avaient lieu ces performances, Ivan Reiner, il y a eu une exposition organisée par Jean Tosh et John Hendricks qui s'appelait The People's Flag Show, qui invitait en fait tous les artistes à se réapproprier le symbole de la nation américaine, c'est-à-dire le drapeau, pour justement lui donner un autre sens que celui honteux qui était associé au comportement du gouvernement Nixon. Donc on voit ces différentes personnes prendre la parole et on voit surtout l'interprétation de Trio A par plusieurs danseurs avec le drapeau autour du cou qui fait directement référence à la manière dont les soldats morts revenaient du Vietnam en fait avec un drapeau au-dessus du cercueil. Donc il y a quelque chose évidemment d'extrêmement cru dans cette image qui est convoquée par Ivan Reiner. Dans les vitrines et les écrans qu'il y a ici, vous pourrez voir d'une part une performance pour laquelle Ivan Reiner a collaboré avec Carl André. Vous voyez ces volumes, ces parallélépipèdes qui sont portés par les danseurs. Carl André d'ailleurs fait partie des performeurs. Qui s'intitule Carriage Discreetness. Alors le titre est très difficile à traduire, ça peut se traduire comme la discrétion du transport. Ce qu'elle a voulu faire dans cette pièce, c'est justement rendre le performeur le plus discret possible, faire en sorte que l'élément qui transporte ces éléments s'efface devant les objets et devant la chorégraphie d'objets en fait, qu'on voit dans cette pièce. Dans l'écran de droite, je terminerai avec ça, on voit les expérimentations réalisé dans le cadre d'un projet dont le titre est très intéressant, puisque c'est une citation d'une œuvre de Robert Morris, hein, donc on voit aussi là encore un dialogue entre les différents artistes. Robert Morris avait occupé en fait en 69 un nouvel espace de la galerie Leo Castelli, puisque justement Leo Castelli, comme quelques galeristes de New York, avait bien compris que les artistes s'acheminaient vers des formes absolument non conventionnelles d'occupation de l'espace, et donc de plus en plus le modèle du loft, hein, et de l'espace un peu industriel va s'imposer. Et donc Leo Castelli décide de faire de son lieu de stockage un lieu d'exposition, hein, donc c'est un très grand volume, et dans ce lieu il organise pendant une semaine un projet qui s'intitule Continuous Project Altered Daily, donc projet continu altéré quotidiennement, une exposition donc de matériaux au sol, hein, donc vous pouvez voir des photographies dans la vitrine, dans laquelle l'artiste intervenait chaque jour pour faire des modifications. Hein, donc c'est l'idée effectivement de montrer le processus, de montrer quelque chose de complètement continuellement en mouvement, en état de changement. Et Yvonne Rainer donc, a repris ce titre pour aller vers cette dimension de création collective que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui se passe entre 69 et 70, dans laquelle justement, dans cette pièce Continuous Project Altered Daily, elle va proposer à des performeurs, à partir d'une une liste de d'activités possibles, de décider dans le cours de la performance comment s'organiser pour des activités individuelles ou collectives à partir de ces instructions. Alors l'autre élément très, très important dans le travail d'Yvonne Rainer, donc vous voyez, toutes ces activités hein, sont improvisées à partir des instructions et elles consistent souvent à créer des modes d'organisation comme ça à plusieurs pour trouver d'autres manières de bouger précisément grâce aux appuis, etc. Et l'autre élément très important dans l'œuvre d'Yvonne Rainer, c'est qu'elle va introduire le film dans les projections cinématographiques, dans ses performances entre 66 et 68. Et elle va ainsi travailler sur l'idée d'un collage scénique où le temps réel de la performance va se doubler avec le temps enregistré du film. Donc on a ces différentes temporalités comme ça qui se mélangent et qui vont disperser l'attention. Encore, on a l'idée qu'on n'a pas une seule chose à voir, mais une multitude de choses à voir. Et à partir de 72, elle va faire le choix de passer à la réalisation filmique, c'est-à-dire d'interrompre son travail de chorégraphe pour devenir donc auteur de cinéma. Et le premier film qu'elle réalise s'appelle Lives of Performers, donc les vies des performeurs. Il est dans le petit salon de gauche, vous pourrez le voir tout à l'heure, c'est un long métrage. Et l'intérêt de ce changement, enfin ce que ça signifie, ce changement, ça signifie quoi? Ça signifie effectivement qu'elle s'est rendue compte que l'idéal du minimalisme, finalement, qui était cette forme pure, hein, cette forme géométrique totalement abstraite, qui ne semblait rien dire de son auteur, mettre complètement entre parenthèses l'expression, la subjectivité, hein, au profit de ces formes industrielles récupérées, finalement, elle laissait dans une sorte de point aveugle, hein, dans un point d'invisibilité, les problèmes de la société, c'est-à-dire les problèmes de genre, déjà d'égalité entre les genres, et les problèmes évidemment des questions qui tiennent à l'identité. Et c'est pourquoi elle a décidé de devenir cinéaste, hein, pour introduire, hein, une dimension beaucoup plus féministe dans son travail et se pencher sur la question de la biographie. Hein. Qu'est-ce que la biographie quand même dit dans un travail artistique? Voilà, et pour finir, dans ce cabinet, si vous avez l'occasion de voir, hein, on a également présenté une très intéressante vidéo de Richard Serra, qui va lui aussi, qui s'appelle Prisoner's Dilemma, le dilemme du prisonnier, hein, qui lui aussi s'intéresse, c'est une œuvre qui date de 1974, à justement ce non-dit du milieu de l'art, hein, qui touche cette fois-ci aux questions politiques et à la manière dont les rapports entre galeristes, artistes et critiques, hein, sont prises dans un réseau d'intérêts, de relations d'intérêts, et pas tout à fait neutres. Voilà, donc ça c'est aussi une œuvre très intéressante, hein, comme critique institutionnelle et comme critique, disons, du milieu de l'art lui-même.